Et ce grand journal du soir se poursuit avec notre page culturelle sur Europe 1. Il est 19h27, pratiquement. Philippe Vandel, c'est à vous.
C'est quand le bonheur ? Eh bien, c'est maintenant. C'est la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Mathieu Charrier depuis le Festival de Cannes. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Merci d'être en duplex avec nous. On va rester dans le cinéma avec Thierry Géfrotin. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Philippe.
On va parler de musique, mais de musique au cinéma. Et puis un nouveau venu, je m'en réjouis, dans cette demi-heure culturelle, Jean-Philippe Ballas. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Je lui ai demandé à Jean-Philippe si ça l'intéressait de venir nous faire partager sa culture rock. Il a dit oui. Et vous allez voir le résultat, les Sex Pistols, donc à bien se tenir. Et notre invité, Kali, dont on connaît tous les tubes, c'est Quand le bonheur, je l'ai dit, ou encore Pensons à l'avenir, succès énorme dès votre premier CD, 600 000 exemplaires, des critiques élogieuses dans toute la presse. Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup.
Rebelote avec votre nouveau métier, Kali, romancier. Après Seuls les enfants savent aimer, vous sortez au Cherche Midi votre second roman. Ça s'appelle Cavale, ça veut dire s'échapper, c'est le titre. Ça raconte votre adolescence.
Oui, c'est une adolescence, on va dire. C'est la mienne un petit peu romancée.
Ah, ça allait être ma question. Romancée ouais. Dans quelle mesure ?
Bah, disons que j'ai gardé des acteurs principaux avec ouais. Les vrais noms. J'ai adoré ça, leur faire des bêtises. Ouais. Et j'ai cousu des vraies histoires avec des fantasmes et quelques imaginaires, quoi. Ouais.
Alors, je dois vous dire que j'étais absolument passionné. J'avais parfois l'impression de lire un roman et parfois de lire un reportage et parfois de lire un papier journalistique. Parfois, c'est carrément brut de décoffrage. Ouais. Vous avez eu peur des réactions ?
Ben oui, mais oui et non. J'ai adoré cette idée d'avoir des personnages réels qui vivent là et qui lisent ce livre et qui me disent mais est-ce qu'on a réellement fait ça ? Est-ce que tu es sûr de ça ? Je dis mais c'est pas grave, tout ça c'est un roman. Ouais. Et en même temps, oui, tu l'as fait, quoi. Ouais.
Parce que parfois, c'est tellement dingue qu'on se dit que ça n'a pas existé, que vous avez inventé. Toutes les histoires qu'il y a dans le livre sont vraies.
Oui, je pense que oui. Peut-être.
Il y a une scène très, très forte. Je ne vais pas la spoiler, parce qu'elle est au tout début, vers la page 50. Votre maman est morte, vous l'avez raconté, quand vous aviez 6 ans. Elle en avait seulement 33. Et quelques années plus tard, il n'y a plus de place dans le caveau familial. On la change de place. Mais ce n'est pas qu'on la change de tombe. On la change de cercueil. Et là, je vous lis. Transvaser une morte, une maman d'une boîte à une autre, avec les enfants et le mari autour. Comment vous avez vécu ce moment et qu'est-ce que vous avez gardé comme image ?
Alors, justement, j'ai gardé cette image-là qui était complètement dingue, le cimetière, Vernet-les-Bains, le canigou, la montagne, le soleil qui est là. Et j'avais pas pu assister à l'enterrement de ma maman quand j'avais 6 ans. On m'avait empêché de voir ça, de vivre ça, pour me protéger sûrement. Et là, c'était une deuxième chance quelque part de le dire au revoir. Ouais. J'ai vécu ça un petit peu comme ça. Et c'était très étonnant parce que ce passage-là, j'ai eu la chance qu'une actrice merveilleuse, Natacha Régnier, me lise ce passage-là aux Trois Baudets pour moi. Ouais. Et j'ai beaucoup pleuré. Ouais. J'ai beaucoup pleuré parce que je pense à ma maman tous les jours. Je lui parle tous les jours. Je lui raconte souvent les jours qu'elle n'a pas vécu. Et là, c'était vraiment du... Je sais pas, elle était là, vraiment, mais physiquement. Donc c'était
mais oui, et puis il y a votre père qui récupère une bague.
Ouais, c'est
et
ça.
Puis qui la met dans l'autre cercueil. C'est ça. Complètement fou. Vous écrivez que vous n'avez pas osé regarder son corps, mais on sent entre les lignes que vous avez regardé quand même.
Ça, c'est à moi, ça. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est à moi.
Mais donc en tout cas, l'impression que j'ai bien compris ce que j'ai lu.
Ouais. C'est à moi, mais en tout cas, j'ai vécu quelque chose de bouleversant, évidemment. Ouais.
Alors, je veux dire, ce qui me frappe, parce que là, c'est un moment tragique, mais on rit vraiment énormément. Et vous racontez, Kali, l'adolescence au présent, pas comme un souvenir, mais comme si vous étiez encore ado. Dans votre tête, vous avez quel âge ?
Alors, disons que sur le premier roman, j'ai beaucoup aimé ça, avoir 6 ans.
Ouais.
Donc, les phrases rapides, courtes, pures, un enfant qui ne sait pas la... Ni le mensonge, ni la mort, ni la trahison.
Non mais là, vous-même, dans votre tête, le Kali de maintenant qui est là, dans votre tête, vous avez quel âge ?
J'ai 15 ans.
Ah,
et je me pose ces questions-là. Mon âge aujourd'hui, ça me terrorise parce que j'ai toujours l'impression d'avoir sauté le milieu. C'est-à-dire qu'il y a l'adolescence, ce moment où on n'a pas encore fait l'amour, mais on pense qu'à ça. On veut rester un enfant et on veut sauter à pieds joints dans la vie d'adulte. Et en même temps, il n'y a pas eu de milieu. Pour moi, la vie, elle s'arrête à 20 ans. Tout se passe jusqu'à 20 ans. Et après, c'est le reste de la vie. En tout cas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais c'est le reste de la vie. Les premiers tournemanèges, les premières fois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir sauté quelque chose. Quoi. J'ai 15 ans toujours. Ouais.
Alors, je dois dire un mot du style, parce que sinon, on croit juste que c'est une interview de copinage, comme ça peut arriver parfois, hélas, dans les médias. Et pour en dire un mot, j'ai plutôt m'abriter derrière des confrères. Cela n'aura que plus de poids. Le Parisien écrit sur vous, sur ce livre. Signalons l'essentiel. Kali est décidément un sacré écrivain. On est emballé par ce canasson magnifique qui s'appelle le style. L'humanité écrit une écriture irrévérencieuse, ourlée de délicatesse. Et pour le Figaro, La plume est orale, émotive, invective. On retrouve des notes de Salinger.
Waouh. Que dire? Non, ça...
Il n'y a pas de question.
Non, ça me bouleverse totalement. Ça me bouleverse. Salinger et l'Attrape-cœur, c'est un livre que j'ai avec moi qui fait partie de ma vie.
C'est un livre d'ado. Hein.
C'est un livre d'ado, ouais. Mais c'est un livre aussi de complexe, un livre de mal-être. Et en même temps, il y a une lumière, il y a ce côté pureté aussi. Il m'accompagne partout, hein, ce livre. Ouais, ouais.
Alors j'ai dit, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du rire, il y a aussi beaucoup de larmes. Pardon, mais alors quand vous êtes ado, passez votre temps à chialer. Alors déjà, vous écoutez Renaud, vous pleurez, vous écoutez Les Clash, vous pleurez, U2 pareil, et quand vous écoutez Dire Straits avec le sax qui dégouline, vous pleurez.
Ouais, ça, fallait pas le dire aux copains.
Ouais,
parce
ouais,
que mon groupe s'appelait Pénétration Anale, donc c'était un groupe punk, très punk, ouais. Et je pouvais pas leur dire que je pleurais sur Dire Straits, et surtout pas avec du saxophone, c'était pas possible.
Ouais, et vous étiez des punks,
ouais.
Avec cet oxymore, ce paradoxe dans la punkitude, des punks puceaux.
Exactement, c'est ça. Mais l'idée du punk, c'était Joe Strummer.
Le chanteur des Clash.
Des Clash. Moi, j'ai découvert Joe Strummer, c'était en 82, la première fête de la musique, je crois que c'était en 82. La télé a montré, à 3h du matin, il y a ce film Rude Boy des Clash diffusé. Je me suis retrouvé tout seul face à Joe Strummer. Il m'appelait, viens avec moi. Et je ne l'ai plus quitté. Et c'est-à-dire que pour nous, c'était ça le punk. La musique, ok. La technique, on s'en fout. C'était l'éternité, la foi. On était sûr, en crachant des mots et en crachant des sons, d'être le plus grand groupe du monde. Et c'était ça, le vrai truc.
Ça, c'est le punk.
Ouais.
Dans votre groupe, il n'y en a qu'un seul qui sait jouer, c'est le guitariste.
Ouais, et qui sait... En tout cas, il joue mieux que nous. Nous, le batteur tape avec des branches d'arbres sur sa batterie.
Ouais.
Moi, j'ai une basse, une corde. Et Fernand, au chant, pousse des cris, il hurle.
Ouais. Non, mais ça, c'est punk, la basse, une corde. Il y a plein de groupes qui ont fait ça en Angleterre.
Ouais, et je me souviens, on avait joué avec les Shérifs, on avait les Rasulfatés.
Ouais.
On avait fait un festival à un moment... On était passé un petit bout comme ça et les gens venaient me voir, les musiciens, est-ce que tu veux que je te prête des cordes? Et j'ai dit, mais ça sert à rien, ça suffit une corde.
Mais bien sûr. Je sais plus quel groupe joue avec une corde et c'est un bassiste absolument dingue. Et puis alors, il y a quand même des trucs hallucinants, c'est que dans votre lycée, avec votre tube, vous jouez à la fête de fin d'année, mais avec le groupe qui s'appelle Pénétration Anale. Mais comment déjà le proviseur peut supporter ça? C'est même lui qui vous le propose.
Bah, disons que c'est le batteur qui est allé le voir, et puis il a eu cette idée de génie, il a dit on veut participer à la fête de fin d'année, comment s'appelle votre groupe? Et là, il lui dit, les lutins verts. Et alors, il a dit, ok quoi, et puis nous, il vient nous annoncer ça, on lui dit, mais on peut pas, nous on est les pénétrations anales, on va pas, c'est ridicule. Et en fait, l'idée d'aller chanter, on avait une chanson qui s'appelait Jean-Cul, Charles Renouvier.
Ouais. C'est votre tube.
Il nous avait rien fait, hein, mais c'est
mais dites, dites qui est Charles Renouvier.
C'était le lycée, le nom de notre lycée.
Voilà, l'essentiel c'est que ce soit pas un auditeur.
Voilà, non mais voilà, et c'était ça, et Jean-Cul, le protel du lycée, tout ça, ohé, voilà. Et l'idée c'était d'aller cracher ça à cette soirée-là, on l'a fait. Et on a tous été virés, mais c'était merveilleux, parce que c'est une légende qui reste aujourd'hui, les gens en parlent encore tant d'années après, ouais.
Tout est vrai. Ah tiens, ouais. J'y pense à l'instant, il y a des trucs qui sont vrais et qui ne sont pas vrais quand même. Par exemple, vous racontez que vous ne parlez pas un mot d'anglais, et puis 60 pages plus loin, il rencontre Bono par hasard, et il discute en anglais pendant un quart d'heure.
Alors on discute, est-ce que c'est de l'anglais? En tout cas, j'étais fou amoureux d'une fille qui s'appelait Fabienne, et je me suis retrouvé devant le Palais des Sports de Toulouse à attendre U2, et j'ai eu pipi, et je suis allé faire pipi derrière, et puis j'ai vu Bono, et là je l'ai regardé, il m'a regardé avec ses yeux très clairs. C'était le Graal pour moi de lui parler. Et je lui ai dit ces mots-là, Fabienne. Et ce gars-là ne me connaissait pas, mais il savait que j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Fabienne.
Ouais.
J'ai pu lui redire là récemment cette histoire. Évidemment, il s'en souvient pas.
Ouais.
Mais il a beaucoup rigolé.
Sauf que maintenant, vous parlez anglais.
Ça va.
Et vous parlez extrêmement bien français. Et surtout, vous l'écrivez très bien, le français. Kali, avec nous, dans la demi-heure culturelle d'Europe. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1, Philippe Vandel.
Suite de cette demi-heure culturelle du 18-20 avec Kali, qui vient de publier au Cherche Midi Cavale, ça veut dire s'échapper, c'est le titre en entier. C'est un roman très peu romancé dans lequel vous racontez votre adolescence, vos premières amours, d'ailleurs surtout vos premiers râteaux, parce qu'il y a plus de râteaux que d'amour dans le début, je ne veux pas tout spoiler. Votre groupe, dont on a dit le nom, c'est peut-être pas la peine de le répéter si des parents sont en voiture avec les enfants. Les noms, c'est les vrais noms.
Oui, sauf
le proviseur, c'est le vrai nom.
Alors,
et la prof qui a des jolies fesses, c'est son vrai nom?
Non, justement, j'ai voulu changer son nom parce que je me suis dit qu'elle a peut-être des enfants, des petits-enfants, et je ne voulais pas qu'ils apprennent que leur maman ou leur grand-mère était si tactile, quoi.
Ouais.
Et puis la professeure de sciences naturelles, qui était vraiment pas sympa.
Ouais.
Et je dis des choses pas gentilles sur elle. J'ai pas voulu donner pareil, pour les mêmes raisons, son vrai nom. Alors je l'appelais Madame Rajoy.
Ouais.
C'est la personne qui fait du mal aux indépendantistes catalans aujourd'hui. Voilà.
Comme le Fernando, qui est en Espagne. Ouais. Fabienne, elle s'appelle vraiment Fabienne ?
Oui.
Vous l'avez retrouvée ?
25 ans après.
Et alors ?
J'étais en concert à Nancy, et puis, parce que dans le livre, je le raconte, je ne peux pas lui dire que je l'aime. Je n'ai pas pu lui avouer. Et chaque soir, je disais à Joe Strummer, chaque soir devant le poster, demain, je lui dis, je lui avoue, je n'ai pas pu. On est devenus amis, et l'amitié, c'est la prison qui empêche de passer à l'acte, quoi. Mm. Et après, on s'est quitté, le lycée est terminé. 25 ans après, je joue à Nancy. Et le directeur de la salle vient me voir et me dit, il y a une dame qui voudrait vous rencontrer. Elle vous connaît depuis très longtemps et Fabienne arrive. Et je lui ai dit, tu sais, il y a prescription. J'étais fou amoureux de toi. Et voilà, à cette époque, elle m'a dit, j'étais fou amoureux de toi.
Mince, là, on a envie de dire, quelle bande d'idiots, c'est de là. Drôle de lutin vert. Ouais.
En même temps, c'est pas mal. Il y a de la petite flamme qui existe toujours, c'est bien.
Et vous n'avez jamais été déçu par elle. Et
voilà,
elle par vous.
Exactement. Ouais.
Et que sont devenus vos potes Alec et Fernand ? Ils existent pour de vrai ? C'est leur vrai nom ?
Bah, cette nuit, j'ai passé la nuit avec Alec. Quoi. On a fait,
ah oui,
toujours mon pop de... À 6 ans, on a passé ce pacte fidélité pour la vie, à la vie, à la mort. Et ouais, on est toujours ensemble. Et puis, il est prof d'hôtellerie à Paris.
Mm-hmm.
Et il a lu le bouquin. Il m'a dit, je peux aller à la NPE maintenant, quoi, chercher du boulot.
Vous ne donnez pas son nom de famille.
Non, non, mais bon.
Ah, il faut raconter un truc, parce qu'il y a aussi des trucs très violents, très durs, très puissant, et puis aussi des choses plus légères. Vous faites des blagues téléphoniques. Racontez le coup du Nesquik.
Ah oui, 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 ça c'est... Bah, disons qu'il y avait une opération Nesquik dans mon village à Vernay-les-Bains, donc il n'y avait pas les portables, tout ça. Il y avait donc les cabines téléphoniques. Et on a appelé les gens... Enfin, opération Nesquik, c'est nous qui l'organisions. Hein. C'est-à-dire qu'on appelait des gens au hasard, on a pris l'annuaire, et on disait, aujourd'hui, Nesquik est à Vernay-les-Bains. Si vous allez dans l'heure chez Manon, l'épicière, demander votre Nesquik, vous aurez un pot gratuit de Nesquik, quoi. Et on appelait mais des centaines de personnes. Et toute la journée, des gens défilaient dans l'épicerie pour chercher leur Nesquik.
Il y avait la queue.
Et l'épicière et l'épicier, ils étaient fous. Ils les viraient, ils les jetaient à la fin de... Et nous, en face, on rigolait, quoi.
Alors, ça picole, ça vomit. Mais il y a un truc bizarre, c'est que l'attitude punk depuis Yann Dury, c'est quand même sex and drugs and rock'n'roll. Alors, il y a du sexe dans le livre, du rock'n'roll, il n'y a pas de drogue.
Non.
C'est parce que vous l'avez passé sous silence ou il n'y a pas de drogue à cette époque et dans cette partie de la France ?
Non, après, il n'y en a jamais eu, en fait. C'était, en tout cas dans ma vie, ouais, dans mes proches, l'idée, c'était plutôt... c'était vraiment le village, les fêtes de village. Quand il,
ouais,
y avait des fêtes, c'était... On était ivres de soleil et de vin, quoi. Voilà,
ouais,
et c'était pas mal, ça. Ouais.
Et le vin, il avait l'air d'être moyen.
Ouais.
Alors, non, mais racontez le vin que ramenait votre pote, quand même.
Ouais, bah, disons qu'on n'avait pas d'argent du tout. Et on achetait du bienvenu. C'était 2 francs la bouteille. Et sur l'étiquette, il y avait marqué, c'était du vin pour la pâtisserie. Donc c'était absolument dégueulasse, quoi, mais c'était notre apéro.
Il y en a un qui est bienvenu, il n'est pas avec nous, mais il est présent, c'est Mathieu Charrier. Rebonsoir Mathieu.
Rebonsoir à tous.
Alors vous êtes depuis La Croisette, c'est le 72e festival de Cannes, je n'apprends rien à personne. Et vous vouliez revenir sur le film qui a fait l'ouverture de ce festival, The Dead Don't Die, parce que le film est sorti dans la foulée. Et vous nous dites ce soir qu'il faut aller le voir en salle.
Oui, en tout cas, si vous aimez ce genre de film, parce qu'au départ, c'est quand même une histoire de zombies. Nous sommes dans une petite ville américaine qui s'appelle Centerville, où tout est un petit peu déréglé. La lune apparaît et disparaît à des heures étranges. Et surtout, les morts sortent de leur tombe. Ils se réveillent avec un objectif, dévorer les vivants.
Je pense à des zombies.
Quoi ?
Bah, tu sais bien, des morts vivants.
Des zombies mangeurs de chair humaine.
Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant.
Ah ! Oh ! Oh merde, ça va mal se terminer. Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie.
Crofty.
Chardonnay.
Elle vient de dire chardonnay ?
Oui, elle l'a dit.
Voilà, alors ce qui est amusant dans ce film, c'est qu'effectivement, ces zombies, une fois qu'ils reprennent vie en quelque sorte, ils se traînent vers leur lieu ou produit d'hyperconsommation favori.
Oui, alors c'est la dimension politique de ce film, parce qu'on imagine que s'il est à Cannes, c'est parce qu'il parle de politique.
Eh oui, en partie c'est vrai, il faut quand même dire que sur la forme c'est un film de genre réussi, il y a l'ambiance très jarmouchienne, les acteurs fabuleux entre les trois flics complètement paumés et qui représentent un petit peu ce qu'il reste de notre humanité, c'est Chloé Sevigny, Adam Driver et surtout Bill Murray, il y a aussi Tilda Swinton qui joue la croque-mort qui manie le sabre comme personne pour décapiter ses zombies, qui ne sont d'ailleurs composés que de poussière, c'est-à-dire que c'est pas un film où il y a des effusions de sang, il y a aussi Iggy Pop et Selena Gomez en zombie, je peux vous garantir
Selena
que c'est assez marrant.
Non mais c'est l'idole des enfants quand même, ça qui est dingue.
C'est pour ça, c'est ça qui qui est drôle. Il y a Tom Waits en Bob l'ermite qui lui assiste un peu à tout ça, reclus dans sa forêt. Bref, c'est un film de divertissement, mais avec effectivement une dimension politique. Écoutez le réalisateur Jim Jarmusch.
C'est un film de genre, donc ça vous permet d'avoir une sorte de cadre dans lequel vous pouvez faire plein de trucs. Je pense qu'on y parle du système dans lequel nous vivons, de la façon dont il nous exploite. Un système qui nous mène à la faillite et qui est stupide. On parle aussi de ce qui nous semble être nos priorités. Je voulais vraiment que ces zombies soient très secs, parce que quand vous mourrez, votre corps s'assèche. Bref, ce qui est bien avec les zombies, c'est que vous pouvez parler de toutes ces choses tout en faisant un film drôle et sombre.
Et c'est vrai que c'était drôle, et en plus, c'est pas du tout un film sanguinolent à la Walking Dead, vous savez, la série qui marche beaucoup en ce moment. Parce qu'en fait, lorsque les zombies sont tués, ils se transforment en une sorte de poussière. Le film a donc été présenté mardi soir en ouverture. Il est en compétition, on verra s'il est au palmarès. En tout cas, vous pouvez aller le voir en salle un peu partout en France et vivre finalement votre festival dans votre cinéma chez vous.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier, depuis le 72e Festival de Cannes. Je vous dis bonne soirée, je vous dis même bonne nuit.
Merci Philippe.
C'est bien les nuits à Cannes. Cali, vous avez des projets de cinéma ?
Je viens de tourner un film avec Jean-Jacques Mocky.
Je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre. À moins que Jean-Jacques soit son cousin.
Non, mais je perds la tête. En fait, c'est Jean-Pierre Mocky. Pardon, monsieur Mocky.
C'était bien parce qu'avec lui, le tournage, il est sur le plateau.
Et c'était merveilleux. En fait, il a repris des séries d'Hitchcock qui n'ont pas été tournées, des scénarios qui n'ont pas été tournés. Il a demandé à des acteurs de venir jouer.
Génial.
Et j'ai récupéré un rôle là-dedans. Il m'a appelé. C'était merveilleux. Je suis un alcoolo et je tue deux femmes et j'ai adoré ça. Ouais.
Ça va s'appeler, si je suis bien informé, ça va s'appeler Entre deux femmes.
Exactement.
Et vous savez quand ça passe, parce que moi je ne le sais pas.
Moi je ne le sais pas encore. Il paraît que c'est là, incessamment sous peu, je ne sais pas.
Ça va passer sur France Télévisions, si je suis bien informé.
C'est ça.
Cali avec nous, on va parler de musique de rock'n'roll, on va parler de punk et on va parler de musique au cinéma avec Jean-Philippe Ballas et Thierry Geffretin. A tout de suite.
19h44, on retrouve Philippe Vandel.
Suite et fin de la demi-heure culturelle de ce 18-20, toujours en compagnie de Cali, qui vient de publier son second roman que je vous conseille, si je puis me permettre. Cavale, ça veut dire s'échapper, c'est le titre, et c'est au Cherche Midi. Je me tourne vers vous, Thierry Geffretin. Vous nous avez apporté un énorme pavé, un livre sur la musique au cinéma.
Eh oui.
Ça fait le demi-kilo.
C'est Cannes, alors je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Ouais. Alors, ce bouquin s'appelle « La musique au cinéma ». C'est très important. Il fait 530 pages environ. Il est signé Michel Chion. Alors, il est à la fois compositeur et réalisateur. Autant dire qu'il sait de quoi il parle. Publié chez Fayard. La musique au cinéma et pas la musique de film. Vous aurez noté la distinction.
Expliquez la différence.
La différence, c'est que la musique au cinéma, ce ne sont pas seulement les partitions, les scores, comme disent les anglo-saxons, les musiques spécialement écrites pour les films, car les réalisateurs utilisent d'autres sources. La musique classique, bien sûr, qui m'est si chère. Vous avez tous vu le dessin animé de Walt Disney, Fantasia, dans lequel vous pouvez entendre Beethoven, Schubert, Bach ou Paul Ducasse. Et oui, c'est de la musique de film.
C'est des balades. L'apprenti sorcier. C'est un français ?
Oui, compositeur français. Donc la musique classique, vous avez aussi des réalisateurs qui empruntent à la pop, à la variété, au rock, American Graffiti par exemple. That'll be the day, the late great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show. Your hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will be.
Non mais là on entend Buddy Holly, American Graffiti, vous êtes vintage. Et encore,
oui,
je suis poli. Moi j'aurais cité, je sais pas, La La Land. Non.
Ah, je l'ai aussi.
Quelle
je
préparation.
Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Alors, évidemment, Michel Chion parle de La La Land, mais pas forcément en bien.
Pourquoi ?
Et, écoutez plutôt ce qu'il écrit. Que Ryan Gosling et Emma Stone, qui bougent et chantent agréablement, sans plus, ne soient pas doublés ni pour leur voix, ni pour leur jeu, joint au caractère classique et attendu de la musique d'Hurwitz, donne un film un peu terne, au goût de réchauffé ou de surgelé, au choix.
Ah, c'est dur. Mais attends, il aurait préféré quoi ? Il aurait préféré qu'il chante pas, qu'il fasse chanter des doublures,
ouais,
comme pour les parapluies de Cherbourg.
Ouais, on se demande en fait s'il aime le film.
Ah, d'accord. Et vous êtes pour qu'on chante mal ? Vous êtes resté punk ou vous aimez que ça chante bien, juste et dans les temps ?
Oh, non, non, non. Le charme, c'est les défauts, c'est tout ce qui bave à côté. Quand c'est trop, trop policier, on n'y croit pas, quoi. Enfin, moi, j'y crois pas et je n'aime pas.
Ah, vous me remontez le moral. Alors, il n'est pas tendre, en effet, Chion. La musique au cinéma est donc multiple, on l'a compris, Thierry Geffrotin, mais on imagine qu'en 530 pages, l'auteur de ce livre s'intéresse également de près aux compositeurs qui écrivent pour le cinéma.
Oui, qui écrivent spécialement pour le cinéma, évidemment. Alors, tous les compositeurs, hein, j'allais dire, pas seulement les Américains, il y a aussi les Français, avec un constat, d'ailleurs, que je trouve assez juste. En France, écrit Michel Chion, il y a une véritable tradition nationale. Les compositeurs tendent à n'être considérés que s'ils sont reconnus à l'étranger. Et c'est pas faux, ça. Ouais. Et alors, il cite notamment Alexandre Desplat, qui a travaillé avec Terrence Malick, Roman Polanski ou Wes Anderson. Budapest Hotel, moi j'avais adoré ce film. Ah, en plus, cette musique qui est une musique d'Europe centrale, sans être vraiment une musique d'Europe centrale, c'est le grand talent de Desplat d'ailleurs. Alors je vous rappelle, le livre fait 530 pages. Hein, ouais. C'est un. Bon, c'est, voilà, ça se déguste. Je ne peux pas entrer dans les détails.
Il y a un index à la fin ?
Ouais, il y a un index, il y a tout.
Et vraiment, moi, s'il vous plaît.
Ouais, je vous le passe, mais
parce
vous
que
me
je vais
rendez,
voir si je trouve le nom de Cali.
Voilà, mais si vous vous intéressez à la musique au cinéma, c'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. Et je vous signale à la fin du livre d'ailleurs une chronologie en 60 films. 60 films pour raconter 125 ans de compagnonnage entre la musique et le cinéma. C'est une très bonne idée. Alors, ce sont des choix tout à fait subjectifs, hein, de la part de l'auteur, mais il y a quand même l'essentiel. Hein,
enfin, 500 pages écrites serrées, il est subjectif serré, et objectif, quand
oui,
même.
Oui, non, mais je parlais en l'occurrence des 60 films.
Hein. Ah, d'accord.
Alors, avez-vous trouvé
musique...
Cali ?
Non, évidemment non.
Alors que j'ai fait une musique de film.
Ah, voilà. Ça n'est pas ma question. Laquelle ?
Mais pour un film qui s'appelle Magique. J'ai joué dedans avec Antoine Duléry et Marie Gillin et j'ai fait chanter Marie et Antoine, quoi. Et j'ai fait les musiques de ce film-là.
Toutes les
donc,
musiques ?
Donc, ce livre n'a pas valeur pour moi. Donc voilà, excusez-moi.
Allez, on le balance, on fait à l'ancienne. Et comment vous avez travaillé ? Vous aviez un minutage où vous avez donné les chansons ou vous l'avez fait à la punk ou pas ? Parce que ça demande une rigueur en plus de la musique, celle du timing, la musique de film.
Oui, c'était merveilleux parce que le réalisateur Philippe Muil avait ses mots comme ça et je devais les mettre en musique, vraiment. Et surtout, imaginer qui allait les chanter.
Et moi, la chose qui me fascine dans les musiques de film, c'est est-ce qu'il y avait du suspense et est-ce qu'il y avait des poursuites ? Est-ce qu'il y avait... La porte qui grince.
Ouais, on a fait ça avec un magicien. C'était bien. Il y avait le magicien à l'écran et puis avec des grosses distos comme ça. Et,
ouais.
Et on a, ouais, c'était bien. C'était ça. C'était ça. Exactement. Vous l'avez bien résumé.
Mais en plus, je ne l'ai pas vu. Donc imaginez si je l'avais vu, le niveau quand même. Jean-Philippe Ballas avec nous. Je l'avais promis. On va parler de rock, on va parler musique et les Clash, les Sex Pistols. Donc il y a bien à se tenir. Qui avez-vous choisi pour cette première ?
J'ai choisi Christophe avec un tout nouvel album. Désolé, mais il est punk, hein, sa façon.
Drôle,
il est punk.
J'adore. J'adore.
Christophe. Avec un album de duo, c'est assez inattendu, ça s'appelle Christophe, etc., tout simplement. On sera tous d'accord autour de cette table pour dire qu'on a l'un des types les plus attachants, les plus admirables et les plus atypiques aussi de la scène française. Christophe, c'est ce que j'appelle un artiste en même temps, je m'explique. En même temps parce que c'est un chanteur populaire. Comme Cali, c'est-à-dire qu'on connaît tous une chanson de Christophe.
Bah, on déjà Aline.
Aline, les marionnettes, Signorita, etc. Et en même temps... C'est un artiste souterrain, underground. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il nous sort des albums absolument magnifiques. Il y a eu Bevilacqua, il y a eu plus récemment Les Vestiges du Chaos, avec des morceaux alors là qui répondent pas du tout au canon, j'allais dire aux critères des chansons, on va dire, un peu classiques qui passent aujourd'hui à la radio. Mais il s'en fout, hein, Christophe, il fait comme ça. Et cet album de duo, finalement, c'est un petit peu la symbiose des deux univers. C'est-à-dire qu'on reconnaît les chansons de Christophe, évidemment, mais elles sont complètement trafiquées. C'est un trafiquant de son, Christophe, c'est comme ça qu'il se présente. Un petit extrait pour bien comprendre.
J'ai deux questions. D'abord, une remarque, les mots bleus totalement revisités, on a même envie de dire réinventés. Là, c'est avec qui ?
Alors, c'est avec Son Luxe. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites réinventé, c'est un mot qu'il aime beaucoup, Christophe, parce qu'au départ, il n'avait pas envie de faire cet album de duo. C'est vrai que c'est un peu systématique ces dernières années. Dès que vous avez un artiste qui a une longue carrière, ben, on réenregistre ses titres avec des bandes de Jones. Ça se fait à peu de frais et ça assure les ventes.
Il Faites gaffe à ce que vous dites parce que Cali a refait Léo Ferré. Donc attention, hein, je ne veux pas qu'il se barre du studio.
Mais il y a des belles réalisations en même temps, c'est vrai. Mais il s'est laissé convaincre finalement au bout d'un certain temps, Christophe, mais il l'a fait avec ses règles. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, avec qui je veux, et j'expérimente, je réinvente. Alors, ça part dans tous les sens, ça part dans les étoiles. Sur cet album, vous avez Étienne Dao, vous avez Camille, vous avez Eddie Mitchell, et puis vous avez toute une scène plus jeune dont on parle moins, des noms un peu moins exposés. Vous avez tous les univers, vous avez le rap, vous avez l'électro. Vous avez notamment Sébastien Tellier,
ah, j'adore.
Personnage un peu baroque, mais qui a beaucoup de talent.
Il y a des basses. Je suis un peu plus vieux. Je dois dire à nos auditeurs qu'on a des nouveaux studios à Europe 1 avec un son absolument exceptionnel.
C'est exceptionnel. Et puis il y a Arnaud aussi qui chante avec lui sur ce disque.
Sur le second volume. Sur le second volume. J'en parlerai, ça sort à l'automne.
Il a travaillé avec des jeunes, notamment Augustin Charnet, un petit jeune de 23 ans. Qui est merveilleux. C'est ça que j'aime profondément.
Alors, il a pris des jeunes et on sent qu'ils ont passé du temps à bidouiller aussi.
Il adore ça, bidouiller. Il fonctionne à l'instinct, hein, Christophe. Il ne fait pas de plan de carrière, jamais. Il y a un truc intéressant, important pour le comprendre, c'est qu'il faut aller chez lui, dans son appartement.
Moi, j'y suis allé déjà. J'ai eu cette chance.
Moi aussi, j'ai eu cette chance. Donc, c'est un appartement où il vit, où il travaille, souvent la nuit. C'est un bric-à-brac. Hein. Il y a plein de bibelots, il y a des jukebox, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amérique. Et puis, il y a des claviers partout, il y a des synthés. Alors, ils sont toujours allumés. Et c'est ça qui donne ce mélange. C'est-à-dire qu'il est un peu bluesman, Christophe, finalement, quand on écoute ses albums. Et en même temps, j'y reviens toujours, il y a cette obsession du son. Et c'est un gamin, quand il vous parle de ces machines. On a un type, à la fois, qui a eu une vie très longue, qui a connu des hauts, des bas, en dents de scie. Et puis, un type qui s'enthousiasme encore aujourd'hui, qui est absolument solaire, Christophe. Je vous précise, et ça Khalil a dit, il a plus de chance que nous parce qu'il les écoutait en avant-première, il y a un second volume qui sortira de cet album de duo de Christophe, il sortira à l'automne. Et ce coup-ci, il y aura Julien Doré, Laetitia Casta, Juliette Armanet, Arnaud donc, entre autres. Moi, je dis que j'ai hâte.
Et là, il y a... Parfait. Wow. Khali fait comme ça sur la basse. Moi j'adore le son qui fait en saccadé comme ça. Tube stratosphérique de Christophe. Non, là c'était succès fou, mais son plus gros tube c'était Aline. Khali, dans votre livre, vous écrivez page 76. Je trouvais ça louche, moi, un groupe qui passait trop à la radio. Quel effet ça vous a fait quand tout d'un coup vous êtes mis vous-même à passer trop à la radio?
Bah, je me suis renié, quoi. Tout va bien. Ouais. Non, mais c'était merveilleux parce que je me souviens la première fois que je suis passé à la radio. On m'a dit ça sera 20h entre Sting et les Cranberries. J'étais avec ma chérie. Et c'est très troublant parce qu'on arrête la voiture. Le gars, il dit bah voilà, il y a un tout nouveau qui arrive de Perpignan, Khali.
Ouais.
Il y a C'est quand le bonheur qui passe à la radio. On poussait des cris comme ça et on s'est aperçu qu'on s'était arrêté devant un cimetière. Et des gens qui nous regardaient effrayés. Nous, on hurlait de joie, on tapait des mains, C'est quand le bonheur et tout. Parce que c'était ça. Et juste après, j'ai reçu des messages de partout en France, d'amis qui me disent t'as entendu à la radio, ma vie a changé à ce moment-là, ouais. Donc voilà,
Et elle a surtout changé parce que contrairement à beaucoup de gens, vous avez continué à passer à la radio.
Ouais, après c'est compliqué parce que... Mais ce qui est plutôt génial, je trouve, c'est qu'il y a des gens qui m'ont pris la main, comme Higelin, comme Lavillier, comme Thiéphaine, et qui m'ont vraiment pris dans leurs bras. Et aujourd'hui, moi, je vois des jeunes arriver, je trouve ça merveilleux, quoi, qui nous poussent un peu dehors, et à nous, à lui prendre dans les bras, à leur dire c'est à vous, quoi.
Non, je veux dire
plutôt pas mal.
Je veux dire par là qu'il faut avoir la chance de ne pas être l'homme d'un seul tube.
Bah, c'est drôle de voir dans la rue des gens qui m'arrêtent 15 ans après, qui me disent « Alors Khali, c'est quand le bonheur ?» Alors à ce moment-là, il faut avoir toujours l'air étonné en me disant « Mais on ne m'a jamais posé cette question.
» Eh bien moi non plus, on ne me l'avait jamais dit. Merci Khali d'avoir été avec nous. Cavale, ça veut dire s'échapper. C'est au Cherche Midi. Merci Mathieu Charrier, bonsoir.
À bientôt.
Merci Thierry Geffrotin, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Voilà, et merci Jean-Philippe Ballas pour ses expériences sonores à refaire.
Merci beaucoup. À vous, bonne soirée.
Merci. Et bonsoir, merci à vous tous. Europe 1.